Et elle a mon âge, je pense. Donc vous imaginez, il y a plus d'une trentaine d'années qu'elle est venue ici. Et elle se souvient parfaitement de l'église d'Hazebrouck. Et je peux vous dire que l'église d'Exeter a un amour incroyable pour notre église. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc j'aimerais prier avant de commencer. Merci Seigneur, parce que ce matin tu as déjà parlé, Seigneur. Et je te rends grâce pour cela. Merci pour ton esprit qui est présent au milieu de nous, Seigneur. Merci pour Rod. Merci pour le témoignage qu'elle donne, Seigneur. Seigneur, que tu puisses parler encore, maintenant, avec puissance. Amen. Alors, j'aimerais vous partager une parole que j'ai reçue il y a quelques semaines. Et je peux vous avouer qu'au début, quand j'ai reçu cette parole sur le cœur, j'étais quelque peu troublé parce que je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. J'ai vraiment demandé au Seigneur de m'éclairer. Et il y a des choses qui sont apparues. J'ai juste abordé ce sujet la semaine dernière à Exeter. Et je vous dirai ce qui est arrivé. Parce qu'en fin de compte, quand j'ai partagé cette parole, il y a un pasteur qui a partagé un songe qu'il a eu. Et il m'a remercié parce qu'en fin de compte, il ne savait pas comment présenter ça à l'église et c'était dans la continuité de ce que j'avais dit. La parole que j'ai reçue, c'est en fin de compte que la parole de Dieu tuera les églises, mais pas l'église. Alors bien sûr, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, mais je ne comprenais pas trop. Et en fin de compte, quand on parle des églises, c'est avec un petit E. Ce matin, on nous a présenté, et je suis persuadé que le Seigneur nous a présenté, quelle odeur avons-nous ce matin? Quelle est notre odeur ce matin? On peut très bien être dans une église, et je vais vous le montrer, on peut être dans une église et avoir une odeur de mort. On a l'apparence du chrétien, et on a une odeur de mort. Et j'ai demandé au Seigneur qu'il me donne une parole pour m'expliquer ce que ça voulait dire. Et je suis allé en Josué, il m'a donné cette parole en Josué, chapitre 1, verset 7. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Quand on sait l'histoire de Josué, Josué faisait partie des 10 espions. Il est revenu avec Caleb. Les 8 autres ont dit qu'il ne fallait pas y aller, ils se sont sauvés, il y avait des géants, il y avait plein de choses. Josué a dit, il faut y aller. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais il y avait surtout cette chose, c'est que Josué aimait Moïse. Il obéissait à cette parole que Moïse lui avait donnée. Il avait une obéissance à Dieu. Et Dieu, à ce moment-là, a vu le cœur de Josué. Il a dit, c'est toi qui conduiras mon peuple. Et il lui a donné une parole vraiment d'encouragement. Tu es mon enfant et c'est toi que je choisis aujourd'hui, littéralement bien sûr. La parole est de Dieu. La parole est Dieu. Et ce que je vous dis, c'est important. Le fondement, quel est le fondement de nos vies ? Aujourd'hui, quel est le fondement de cette église aujourd'hui? Est-ce que notre église est basée sur Christ? Est-ce que notre vie est basée sur Christ? Et quand je dis le fondement, c'est réellement le fondement. C'est pas une agitation, c'est pas quelque chose de succinct. Et c'est la parole qu'on a sur le cœur, c'est la parole qui est enseignée dans l'Église qui fera que l'Église vit et l'Église vivra. Il y a plein d'églises autour de nous qui vont s'effondrer. À un moment donné, ces églises seront confrontées à la vérité, à Christ lui-même. Est-ce que dans notre Église est prêchée la saine doctrine? Est-ce que sur notre cœur, on a cette saine doctrine? Alors, quand j'ai discuté avec ce pasteur la semaine dernière, il m'a dit une chose. Il m'a dit, j'ai eu un songe. Il dit, on était entre chrétiens. Il dit, on avait tous une tasse d'eau dans la main, un mug. Et tous les mugs, il y avait de la vapeur d'eau qui s'échappait de ce mug. C'était incroyable. On était tous le même mug, on était un groupe de chrétiens. Et il y a un du groupe qui a regardé son mug. Il n'y avait que de l'eau chaude. Tous les autres avaient le fameux sachet de thé. Ils étaient identiques. Ils avaient le même mug. Ils avaient la fumée. C'est-à-dire tous l'eau chaude. Il n'y avait qu'une seule chose. Il manquait le sachet de thé. Le sachet de thé, c'était la représentation de Christ. Cette personne n'avait pas Christ dans sa vie. Il lui manquait l'essentiel. Tout était identique. Il y avait l'amitié, il y avait l'amour, il y avait la joie. Il y avait le mug, il y avait l'eau chaude. Mais il manquait l'essentiel. Ce qui allait donner le goût à sa vie, ce qui allait donner cette odeur à sa vie. Il manquait Christ lui-même. Pourquoi je dis cela? Si on se réfère à Matthieu, chapitre 24, et c'est important parce que c'est en fin de compte Jésus qui parle de ces choses-là. Chapitre 24, versets 4 et 5, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Est-ce que ce matin, je suis attaché à la parole de Dieu, capable de discerner les choses vraies et les choses mauvaises? Je vais vous en faire une démonstration tout à l'heure de ce qui se passe actuellement dans certaines églises. C'est effroyable. Est-ce que je serai capable, à un moment donné dans ma vie de chrétien, de discerner lorsqu'on va tordre la parole de Dieu? Est-ce que je serai capable? Plus loin, au verset 23 et 24 du même chapitre, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Cette parole est très importante, « même s'il était possible, les élus. » La question qu'on doit se poser ce matin, c'est quel est le fondement de ma foi, de ma vie? Vendredi, on a abordé le sujet sur, vous savez, c'est quand Paul et Silas avaient annoncé la saine doctrine, la parole de Dieu. Ils ont été mis en prison par les pharisiens, par les scribes. Et bien sûr, est arrivé ce fameux moment où il y a eu des tremblements de terre, où les chaînes ont sauté, où les portes sont ouvertes. C'est une allégorie, en fin de compte, du salut. Lorsque la parole arrive dans notre cœur, il y a ces moments de tout bouge, tout vacille dans notre vie. Nos chaînes se délient et les portes s'ouvrent. Les portes de notre cœur s'ouvrent et on est libre. On est libre en Christ. Et bien sûr, il y a le geôlier qui est là, lui voulait se tuer. Paul l'a arrêté et le geôlier a posé une question il lui a dit, mais comment je dois faire pour être sauvé? Et on lui répond, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors bien sûr, on pourrait se dire aujourd'hui, c'est simple, je vais croire en Christ. Voilà, tout simplement, et tout ira bien. Ça va plus loin que ça. ça va beaucoup plus loin que ça. Derrière ce verbe « croire », il y a quelque chose d'essentiel. On a des églises qui sont remplies de personnes mortes en croyant être sauvées. Quand j'ai reçu cette parole, je me suis posé cette question, mais comment on peut être ainsi? Comment on peut être emmené par des gens? C'est simplement le fait qu'on n'est pas en Christ. On n'a pas cette croyance qui va au-delà du verbe « croire ». C'est-à-dire que le départ d'une vie chrétienne, c'est quoi? C'est la repentance. La repentance, le fait de témoigner, de dire au Seigneur « je veux que ma vie change ». J'ai ça sur mon cœur, j'ai ça, ça et ça. Comment on sait qu'on est en Christ? C'est pas le fait d'être au milieu d'une église. C'est parce qu'on a un changement radical de notre vie. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est l'action de Christ dans nos vies et rien d'autre. Tout le reste, c'est de l'agitation. On a beau faire des campagnes d'évangélisation, on a beau faire plein de choses. Si on n'a pas eu cette repentance dans notre vie, on n'a pas Christ. On a le mug rempli d'eau chaude, comme les autres. Il nous manque le sachet. Si ce matin, je n'ai pas ce changement dans ma vie, c'est que je n'ai pas Christ. Ça doit se voir. Ça doit se sentir. Quelle odeur j'ai ce matin? Est-ce que j'ai l'amour pour la parole de Dieu au point d'être vissé? Médite-la jour et nuit. Est-ce que j'ai cet amour pour la parole de Dieu? Si la parole est chez moi, sur une belle étagère, j'ai beau avoir 6 ou 7 Bibles. Est-ce que j'en ouvre une simplement par jour en disant pas « Seigneur, ce matin, il faut que je lise un chapitre » mais simplement inverser. « Seigneur, parle-moi. Je sais que tu as des choses à me dire, parle-moi. » C'est ça le terme « méditer ». C'est pas l'obligation de lire des chapitres et des chapitres parce qu'un jour viendra l'Antichrist, c'est de ça que parle Jésus en chapitre 24. L'Antichrist, celui qui ira au-delà des abominations que les hommes ont connues jusqu'à présent. Cette personne qui vous parlera, qui vous fera des miracles au milieu des églises avec un petit « e », qui vous dira autre chose que la saine doctrine. Et si vous êtes à lire votre petit chapitre tous les jours, vous serez embarqué. Vous serez embarqué. En Éphésiens chapitre 6, versets 10 et suivants, et les autres, on est dit qu'on n'aura pas à lutter contre la chair et le sang. On peut aller lire parce que il y a plein de choses. Voilà. Bon, je vais lire à partir du verset. « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. » Donc vous voyez, déjà ça sous-entend que le moi n'existe plus, que c'est vraiment une soumission. « Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. » Est-ce que ce matin, je veux faire la volonté de Dieu? Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. C'est les fameuses récompenses qu'on recevra au ciel. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux. C'est Christ qui est dans notre vie, c'est Christ qui est dans les cieux. Et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Comment je peux me fortifier dans le Seigneur, sinon qu'en étudiant sa parole ? Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Cet antichrist va arriver. Et quand on réfléchit à tout ce qui se passe actuellement, cette apostasie, l'abandon de Dieu lui-même, on regarde tout ce qui se passe actuellement, même en France, tout ce qui a été autorisé. On est dans un moment de permissivité incroyable. Tout est permis, tout est normal, parce que Dieu n'existe plus. C'est contre ça qu'on aura à lutter, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. L'importance de garder la parole, l'importance d'avoir cette repentance qui fait que Christ habite réellement dans notre cœur. En 2 Timothée chapitre 2, versets 15 à 19, on peut lire quelque chose d'important également. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Si cette parole habite en nous, si notre fondement est Christ, on n'a rien à craindre. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas à impressionner les gens qui nous écoutent, que ce soit dans la rue, que ce soit dans notre famille. On n'a pas à les impressionner. On doit simplement montrer au travers de notre comportement que la parole est en nous et que nous vivons par la parole. C'est cette odeur de sainteté qui va sortir à ce moment-là et rien d'autre. Il y a 2 Timothée également, chapitre 4. Chapitre 4, versets 1 à 5. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Ils ne supporteront plus la sainte doctrine. Entendre la vérité de la parole de Dieu, ça va devenir insupportable. Et il y a plein d'églises aujourd'hui qui sont comme ça. Simplement, les vérités de la parole ne seront plus enseignées et commencent à ne plus être enseignées. Il y a des choses abominables qui sont prêchées par Bénin, Robert Titton, Kenneth Copeland, j'ai marqué plein de noms, plein encore, qui enseignent, alors certains connaissent peut-être, la doctrine des Little Lords, des petits seigneurs, ou Little God, pardon, des petits dieux. En fin de compte, ils disent que, étant nés de nouveau, on est devenus des petits dieux. On est Dieu. Bien sûr, c'est la théorie du Nouvel Âge. Et on enseigne ça dans les églises. Il y a quelqu'un qui va beaucoup plus loin, et c'est grave. Kenneth Hagin, dans son livre « Le Dieu de la vie », déclare lui que le chrétien est appelé Christ. Parce qu'à partir du moment où il est né de nouveau, il a Christ en lui, on peut l'appeler Christ. Et il est comme Christ. Vous imaginez jusqu'où ça va? Et ce n'est pas hier, ce n'est pas demain que ces choses sont enseignées, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Est-ce que si demain, quelqu'un vient et nous enseigne autre chose, est-ce que on sera capable, à partir du moment où on lit un petit chapitre tous les jours, est-ce qu'on sera capable de connaître ce qui est bien et ce qui n'est pas bien? Est-ce que le fondement qui est en moi est réellement Christ? Quand on sait que tout ce qui est prêché, si tout ce qui est prêché a été prêché par Christ et ses disciples, ça, c'est la vérité. Si on prêche autre chose que cela, on prêche un évangile du mensonge. En Tite, Tite nous invite en fin de compte à être un modèle. À être un modèle lorsqu'on annonce l'évangile, lorsque nous qui apportons le message, on doit prêcher un évangile clair, un évangile simple. C'est ce que Jésus-Christ a fait lors de sa vie terrestre. Il a prêché un évangile clair. Chapitre 2, versets 6 à 8. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Comment je peux prêcher cet évangile? En ayant le fondement de Christ dans ma vie. Si j'ai le fondement de Christ, c'est l'Esprit qui parlera. Si je n'ai pas cette vie de Christ en moi, je prêche et je vais prêcher un autre évangile. C'est clair. Et le malin s'amusera avec nous. En Luc, chapitre 6. Versets 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai qui est semblable. Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Ce matin, la question qu'on peut se poser, sur quoi ai-je bâti ma maison? Sur quoi ai-je bâti ma vie? Est-ce que c'est réellement sur Jésus-Christ? Est-ce que j'ai une approche un peu particulière? Quand je vous dis ça, je me dis ça à moi également. Est-ce que j'ai une approche particulière de ce qui est réellement une vie en Christ? Est-ce que j'ai bien démarré? Est-ce que j'ai réellement démarré un jour? Vous savez, il y a cette image de lorsque Christ va poser son pied sur le mont des Oliviers, il aura son armée avec lui. Je vais être où? La question qu'on peut se poser ce matin, c'est où vais-je être? On parle de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église va se faire comme ça. Comme ça. On peut être dans une église et vous allez voir des gens qui vont disparaître. Ce sont ceux qui seront réellement en Christ. Et cette image de la parole qui tuera les églises, c'est ça. C'est cette image-là. C'est cette image des églises qui n'auront pas ce fondement. Et celui qui aura ce fondement réel de Christ dans sa vie, il s'en ira avec Christ. Il y a plein d'images de. Actuellement, je pense et je suis persuadé que Christ, même Dieu, cherche des hommes de Dieu. Il cherche. Il y a un verset qui dit « Lorsque Christ reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Aujourd'hui même, Dieu cherche ses hommes. Lorsque Pierre était dans la barque, Jésus arrivait. Pierre a vu Jésus, les autres sont restés assis, Pierre s'est levé, il est allé sur l'eau et au bout d'un moment, pris de panique, il est tombé dans l'eau. Ce qu'attend Jésus de chacun d'entre nous ce matin, c'est qu'on continue à marcher sur les eaux. Il attend ces hommes qui vont continuer quoi qu'il arrive parce que leur foi sera parfaite en lui. Je vais vous donner, pour terminer, un exemple. La parole de Dieu nous donne, c'est très très haut, très élevé, l'exemple d'un homme de Dieu. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouvera chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussitôt le roi Nebuchadnezzar, ton père au roi, l'a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur, de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Ici, on a l'image de Daniel qui était animé de l'Esprit de Dieu. Voilà l'image parfaite d'un homme de Dieu. Et si vous comptez, il y a 10 attributs. Il y a 10 attributs. C'est l'image parfaite de l'homme de Dieu, celui qui a l'Esprit, celui qui a le fondement de Christ en lui. Ce matin, on a une question, j'ai une question à me poser. Quel est le fondement de ma vie? Quel est le fondement de ma vie? Est-ce que lorsque je serai confronté réellement à la parole de Dieu, est-ce que cette parole me tuera ou est-ce que je resterai debout? Amen.